Nous allons parler de l'environnement, effectivement, avec l'association Limousin Environnement et Michel Gaillot. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue en direct des ondes de la radio Bob FM. Il est 16h30 dans cette émission spéciale Fête de la Science où nous allons parler donc de cet asso qui est écrit il y a un petit moment tout de même maintenant, Limousin Environnement.
Ah ben oui, effectivement, ça date de 1975.
Vous étiez les précurseurs en écologie puisque je crois que c'est à cette période dans les élections présidentielles de 1974 que le Parti écologiste se présentait pour la première fois.
Alors, c'était pas vraiment le Parti écologiste, c'était René Dumont qui s'est présenté, qui se présentait un petit peu tout seul hein, à l'époque. Alors, il y avait les Amis de la Terre qui étaient créés, mais donc qui ont aidé sa candidature. Mais c'est l'époque effectivement où beaucoup d'associations de protection de la nature, enfin de fédérations, parce que les associations de protection de la nature, il y en a qui ont été créées en 1945-46. Hein. Mes parents ont été dans les premiers fondateurs de ce qu'on appelle maintenant Nature Centre. Hein, à l'époque, ça s'appelait les naturalistes orléanais. Donc, à la sortie de la guerre, il y a commencé à avoir des associations.
Alors, quelles étaient leur sensibilité, leur problématique, pourquoi avoir créé ça à la sortie de la guerre?
Alors, c'était des professeurs de sciences naturelles, à l'époque on parlait de sciences naturelles, qui voulaient faire des sorties pour découvrir la nature, pour mieux comprendre, pour faire des inventaires aussi, parce que c'est le début des moments où on a commencé à faire des inventaires sur les oiseaux, avec de bagages des oiseaux. Donc leur objectif, c'était faire des sorties dans la nature, pour découvrir, pour comprendre. C'est toute l'époque aussi où les gens faisaient des collections, il y avait des herbiers, pour les plantes, ouais. On avait des collections d'insectes, des collections de fossiles, enfin, des collections de roches. Donc c'était l'époque où les gens collectionnaient pour découvrir, pour connaître. C'était plus d'ailleurs connaître que comprendre.
Et d'ailleurs, il n'y avait aucun engagement, on va dire, pour la défense, chose que l'on peut retrouver aujourd'hui pour dénoncer effectivement tous les méfaits de l'homme sur la Terre. C'était au contraire se plonger dans un univers encore inconnu pour beaucoup d'entre nous, essayer de mieux la comprendre. Il n'y avait pas ce côté, effectivement, engagé face donc au monde industriel et à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a évolué au fur et à mesure des années.
Oui, 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 tout à fait. Les gens essayaient de connaître la nature, pas de comprendre, pas de la protéger. Alors, il y avait peut-être moins besoin de la protéger à l'époque, mais sachant que les premiers, le fameux bouquin de Rachel Carson, Printemps silencieux, date du début des années 60. Hein. C'était aux États-Unis, donc la prise de conscience a commencé. Il faut savoir aussi que, historiquement, le Touring Club de France a été à l'initiative... Les Touring Clubs en Suisse, mais même en France, puisque pour en revenir à Limousin Nature Environnement, qui s'appelait la FLEPNA à l'époque, Fédération Limousine d'études et de protection de la nature, a été créée. Entre autres, il y avait le Touring Club de France qui faisait partie des membres, et de même qu'il y a eu la Fédération des offices de tourisme à l'époque, qui était aussi membre de la FLEPNA. À l'époque, effectivement, ces associations ne pensaient pas à la protection, mais très vite, il y a des associations, en particulier l'association de jeunes, le Club Nature Les Crevisses, qui, eux, étaient un petit peu révoltés, en particulier contre la chasse, contre le fait qu'on classe des animaux nuisibles, contre les animaux qui mouraient sur le bord des routes. Hein, ces jeunes, ça les a sensibilisés, et à ce moment-là, sont partis dans la protection de la nature. Et c'est vrai que donc, la protection de la nature a plutôt été à démarrer aussi à ce moment-là.
Alors on a l'impression qu'ici en Limousin, la nature est protégée. En même temps, si on gratte un petit peu, on voit qu'elle est beaucoup et nettement artificielle. L'engagement de Limousin Environnement, il a commencé dans quoi ?
Bien, il faut savoir que dès le début, c'était tous les sujets qui nous intéressaient. Le premier conseil d'administration de Limousin Nature Environnement en juin 1975, donc fédération qui venait de se créer, le premier conseil d'administration à discuter de l'organisation de la ville, la présence beaucoup trop importante de la voiture et des modes de déplacement. Alors maintenant, on parle des modes de déplacement doux. À l'époque, on disait mode de déplacement en vélo, à pied. Donc, dès 1975, donc déjà à l'époque, on comprenait que l'homme a un impact sur la nature et que l'homme en ville aussi a besoin d'être, je dirais, d'avoir cette sensation, parce que même s'il y a moins de nature en ville, il y a besoin aussi de baisser la place de l'homme et les conséquences que ça, les conséquences de la pollution sur l'air et des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, il a fallu 45 ans tout de même pour arriver à ce que Limoges nous mette à disposition des endroits pour circuler en vélo. Et c'est en essai. Une partie de la population est contre, hein, visiblement. Une autre partie de la population est très contente. Voilà. Là encore, le temps parlera pour nous et on verra eh bien, ce qui sera donc décidé. Vous avez un stand ici pour la fête de la science autour de la promenade en forêt. Donc, je l'ai abordé dans ma question, enfin, dans ce que je disais juste avant, cette nature qui nous entoure, qui nous paraît si belle, mais lorsque l'on s'intéresse un petit peu à cette nature et à notre environnement, on peut s'apercevoir que c'est un environnement très artificiel. Ces petites balades en forêt, justement, comment vous essayez de sensibiliser les gens ?
Eh bien, on leur fait passer un permis nature. On passe bien le permis de conduire pour être sur les routes. Pourquoi ne pas passer un permis pour se promener dans la nature, dans les chemins, dans la forêt. Donc, on a mis au point ce petit système de permis nature avec un certain nombre de questions. Et les gens répondent aux questions et suivant les bonnes réponses qu'ils ont, ils gagnent des points. Et après, on voit le nombre de points qu'ils ont. Et l'intérêt, c'est de faire passer ça en groupe, dans une classe, par exemple. Bon, ben, sur ces jours-là, ces jours-ci, ce sont les scolaires qui viennent. Et le groupe, ils ont chacun une petite zapette. Hein. On peut appeler ça une zapette, comme on peut avoir une souris. Et puis, donc, ils choisissent. Là, ils ont une question, trois possibilités de réponse, ils choisissent, et à la fin, quand ils ont fini de passer le permis, on voit le nombre de points qu'ils ont.
Alors moi, je suis très curieux, justement, parce qu'avant, ce permis de se promener, c'est avant tout se poser des questions. Qu'est-ce que l'on fait de mal, le fait d'aller dans la nature et de se promener ? Qu'est-ce qui fait qu'on fait des mauvais gestes ? Quels sont d'ailleurs ces fameux mauvais gestes ? Est-ce que vous avez un ou deux exemples des questions que vous posez ?
Alors, l'objectif, c'est pas de culpabiliser les gens. Oui. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre qu'il y a plein de choses qui se passent dans la nature, qu'il y a des choses qui sont liées, parce que c'est pas seulement connaître. Bien sûr, il y a des questions pour savoir. Bon, l'exemple de la salamandre, on leur montre une salamandre en noir et blanc, puis on leur dit quelles sont les couleurs de la salamandre. Est-ce que c'est du vert et du bleu? Est-ce que c'est du rouge et du jaune? Bon, donc ça, c'est le côté connaissance. Et puis on va avoir quelques questions sur pour expliquer. Comment fonctionne là et quels sont les liens qu'il peut y avoir entre certains animaux, qu'est-ce que mange tel animal. Il y a des choses de ces plats. Alors, c'est vrai que là, on a fait quelque chose plutôt à destination des enfants, ou voire que certains adultes, donc c'est plutôt orienté vers la connaissance, hein, parce qu'on se dit que quand on connaît bien quelque chose, eh bien, on a envie de le protéger. On a envie qu'il continue tel qu'il est, et donc de le protéger. Donc toute l'éducation à l'environnement que l'on fait, en particulier au centre nature, la Loutre, l'objectif c'est de faire comprendre, et quand on comprend quelque chose, eh bien, on essaie de le préserver.
Alors, cette préservation, justement, donc, elle est faite par différents moyens, par l'éducation, par la sensibilisation. Tu parlais du centre de la Loutre, justement, où il y a des promenades qui sont organisées pour que les gens découvrent ce milieu. Mais quelque part, est-ce que la préservation, ce n'est pas aussi enfermer la nature, à savoir l'empêcher d'évoluer ?
Alors, c'est effectivement un grand débat. Est-ce qu'il faut figer la nature ? Alors, c'est pas notre credo, parce que la nature, comme les paysages, bouge beaucoup. L'homme est actuellement dans la nature. Il n'est pas question de le retirer de la nature. Par contre, il y a un certain nombre de choses essentielles dans la nature qu'il faut la préserver. Il est certain que la présence des pesticides qu'on peut avoir dans l'air, dans l'eau, dans la terre, quand on demande qu'il n'y en ait pas, ça préserve la nature. Ça ne veut pas dire qu'on va la figer telle qu'elle, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'agriculture. Bon. Mais c'est ça la préservation, ce n'est pas figer, c'est permettre que le vivant puisse continuer à se développer, éventuellement à évoluer, mais en tout cas pas l'empêcher de vivre ou d'évoluer. Et c'est ça qui est surtout notre credo, quoi, notre...
Alors tu le disais, il y avait une partie donc éducation entre guillemets, donc autour de apprendre à ce qui nous entoure d'un point de vue environnement. Quelle est l'autre partie que vous avez dans votre test? Est-ce qu'il y a un second volet qui est abordé ou d'autres facettes?
Alors après, le côté vraiment naturaliste, nature, c'est un petit peu tout ce qui touche à l'organisation de notre société, tout ce qui touche comment dirais-je ? On intervient du fait qu'on est agréé au titre de l'environnement, on intervient pour essayer d'orienter les politiques publiques pour faire en sorte d'éviter de faire des bêtises. Donc on a tout ce travail-là d'accompagnement, d'aide, de conseil, même si parfois, j'allais dire même souvent, nos conseils ne sont pas vraiment suivis, mais on est là pour aider à la fabrication de ces politiques publiques. Il y en a bien besoin, hein, puisque quand on voit, en parlant effectivement de l'organisation de nos villes, hein, il a fallu 45 ans pour que les élus maintenant admettent qu'il faut limiter la place de la voiture en ville pour faire respirer les gens, permettre du vélo, du transport en commun. Mais donc on continue à essayer de conseiller avec une vision sur l'avenir, sur le long terme. Ce qui est très très différent des visions qu'ont le monde des décideurs politiques ou économiques, qui n'ont une vision que sur quelques années. Notre vision, c'est vraiment sur le long terme, voire le très long terme.
Alors là aussi, c'est quelque chose qui a évolué, hein, puisque les politiques, entre autres, et donc les décideurs, faisaient en sorte que la politique soit envisagée pour les années à venir et non plus pour se faire réélire, entre guillemets, et que ces notions-là ont aussi nettement évolué, malheureusement, dans le mauvais sens depuis donc bien quelques années. D'autres missions également, est-ce que, par exemple, Limousin Environnement est une association qui a réussi à mener des combats en justice, à s'engager par rapport à des choses qui n'allaient pas, et est-ce que Limousin Environnement a servi justement à dénoncer, entre guillemets, à mettre en avant des problématiques et à les résoudre?
Alors effectivement, quand tous les moyens de dialogue n'aboutissent pas, on utilise ce moyen juridique, mais en s'appuyant sur la loi, parce qu'il faut savoir que les lois actuelles sont largement suffisantes pour la protection de l'environnement. Simplement, elles sont pas appliquées, elles sont pas respectées.
Elles sont ni appliquées et elles ne sont, j'allais dire, la police de l'environnement n'existe pas.
Alors si, il existe la police de l'environnement, mais avec très peu de moyens. Il y a par exemple la police de l'eau. Toutes les infractions sur l'eau, les pollutions qui peuvent arriver, il y a des agents qui sont assermentés et qui peuvent faire des constats de pollution. Le problème, c'est quand ça arrive au niveau de la justice, au niveau du pouvoir public, 90% des constats vont à la poubelle et il n'y a pas de suite qui sont données juridiquement. Donc les associations, parfois, vont aller en justice. Alors, ça peut être en justice administrative quand c'est une décision préfectorale ou d'une commune que l'on peut attaquer en justice. Et quand c'est vraiment un problème de pollution, ça peut être au civil où on peut porter plainte pour essayer de faire condamner les infractions. Mais il faut savoir que c'est très difficile, ça coûte cher. Ce sont des choses sur lesquelles, bien entendu, on n'est absolument pas subventionné. Pourtant, nous, on reste dans la légalité. D'autres font le choix, effectivement, d'un combat, je dirais, plus dynamique. Certains diraient plus violent. Bon. Pourquoi pas ? Enfin, moi, je condamne bien entendu la violence, mais des combats qui sont plus dynamiques, plus visibles, pourquoi pas, hein, toujours en restant dans le respect des personnes en particulier. Il faut savoir qu'à l'inverse, nous subissons des pressions, des menaces. Hein. Mais bon, nous, on essaye, c'est notre ADN, d'être dans la légalité, c'est d'accompagner les politiques. Et quand on agit en justice, eh bien, effectivement, on regarde les textes de loi et puis on dit « Ah ben non, là, vous avez pris telle décision qui n'est pas conforme à la loi ».
Oui, c'est vrai que ces problématiques, entre autres la pollution de l'eau ou autres problématiques environnementales, sont souvent liées donc au milieu industriel, même s'il y a des cas chez les particuliers, et que généralement ces gens ont d'autres pouvoirs, que, entre autres financiers, que vous avez malheureusement donc à disposition. La police de l'environnement existe, donc, tout comme la police de l'eau, mais avec très peu de moyens, effectivement. Je pense aussi à la fédération de pêche, qui sensibilise les pêcheurs pour dénoncer les différentes pollutions des eaux. C'est le cas donc, chez nous, par exemple, avec une pollution qui a eu lieu il y a peu de temps sur différents cours d'eau autour de Limoges. Mais malheureusement, ces poursuites en justice ne se font pas et les changements ne se font pas. Y a-t-il d'autres moyens, en tous les cas, d'agir, de sensibiliser les gens autour justement de ces différentes problématiques pour essayer que les choses changent ? Parce que quelque part, il y a bien un verrou qu'il faut ouvrir.
Les verrous, il y a de toute façon tout ce qui est l'éducation. Hein. Donc on a un volet important d'éducation à l'environnement avec le Centre Nature qui accueille des scolaires. Donc lui, il existe depuis 35 ans. Et en 35 ans, le nombre de scolaires qui sont passés à la loutre est très important. Maintenant, c'est difficile d'aller au-delà. Et on n'a pas énormément de leviers. Alors on essaye de convaincre la population, parfois de faire des campagnes. Je vois en soutenir la campagne sur l'éco-cliquot. L'éco-cliquot, c'est une campagne contre les pesticides et que l'on relaye pour faire en sorte que, petit à petit, on abandonne l'usage des pesticides. Donc il y a un certain nombre de campagnes de ce type-là. Il faut savoir que l'opinion publique, petit à petit, change. Donc on voit sur le problème des pesticides, on voit par exemple sur la culture des pommes, les fameuses pommes de Limousin, qui sont des pommes quand même qui subissent jusqu'à 40 traitements, eh bien la pression des habitants a fait en sorte que la profession est en train de changer. Il y a un dialogue qui s'est créé et ça va dans le bon sens. Alors certains peuvent dire que ça ne va pas assez vite, sans doute. C'est vrai, mais on n'a pas une position d'opposant systématique, hein, en particulier avec le monde agricole, on les accompagne, hein, on parlait des problèmes de pollution de l'eau, eh bien, on accompagne les agriculteurs, les éleveurs, dont les vaches vont aller piétiner dans les ruisseaux pour s'abreuver. On leur dit, ben non, faites un système d'abreuvement décalé pour que les vaches aient de l'eau, bien entendu, mais qu'elles n'aillent pas, parce que quand elles piétinent la terre va aller dans l'eau. Donc ça fait une pollution qui est peut-être une pollution organique, mais qui est quand même une pollution. Donc on travaille aussi en lien avec les agriculteurs.
C'est vrai qu'il faut réussir à faire évoluer tout ça, hein, puisque petit à petit, on peut se rendre compte. L'exemple des vaches est très bien trouvé, avec le problème donc de la rivière qui s'agrandit petit à petit, puisqu'elle est piétinée par ces vaches, le système donc la problématique de l'envasement de la rivière, et donc tous les effets secondaires qu'il y a donc autour de la vie, tout simplement donc aquatique. L'émission, Lucas, tu voulais.
Non, mais ça, c'est que ça fait simplement partie de l'évolution, on va dire, naturelle de la nature. Il n'y a pas d'intervention de l'homme là-dessus.
Oui et non.
Sur les agriculteurs, enfin sur les vaches qui piétinent un passage, on va dire que c'est naturel.
Non.
Non.
C'est, ça a beau être naturel, c'est quand même une pollution. Parce que toute la boue, en quelque sorte, les particules fines qui vont être entraînées du fait du patinement, vont petit à petit colmater en aval, colmater un petit peu le fond de la rivière, et donc détruire la vie qui ne pourra plus respirer. On a par exemple, donc, on suit à Limousin Nature Environnement, le plan sur la moule perlière. La mulette perlière, c'est une moule qui existait en des millions et des millions d'exemplaires en France il y a 3-4 siècles et qui a été décimée, en particulier par la pollution. Et il ne reste plus que dans certaines rivières de ce moule, dont le Limousin et la région de France où il y a le plus grand linéaire de rivières où il y a ces moules. Eh bien, quand on a effectivement cette boue, ces petites particules fines, qui sont tout à fait naturelles, mais qui vont colmater et qui vont empêcher la moule de respirer, de filtrer l'air, et donc qui vont les faire disparaître. Donc c'est aussi une pollution qui est liée aux activités humaines. C'est pas une pollution chimique, mais c'est quand même des conséquences de l'activité humaine. Et donc, mais là, on sait qu'il peut y avoir des solutions. Donc une solution qui sera avec la satisfaction de tout le monde, parce que du coup un agriculteur, s'il a un système d'abreuvement de ses vaches, les vaches ne vont pas les piétiner, ne vont pas être dans les pattes dans la boue, et ça sera meilleur aussi pour leur santé. Donc il y a aussi des avantages communs.
Oui, on découvre aussi d'autres inconvénients, par exemple, qui sont liés aux étangs et qui créent également des envasements dans les rivières. Et pour revenir sur la moule perlière, je pense que l'une des rivières emblématiques, c'est la Drône, qui est une rivière sur laquelle beaucoup de scientifiques du monde entier s'intéressent à cette fameuse moule perlière des rivières. Il y a eu un fort investissement du parc régional naturel du Périgord également par rapport à la rénovation des cours d'eau pour trouver le cours naturel des eaux. Là aussi, on retrouve énormément de travaux qui ont lieu actuellement pour abattre tous ces cloisonnements qu'avait fait donc l'homme il y a de cela quelques années. Est-ce que vous menez également, est-ce qu'il y a un suivi plus particulier sur le milieu aquatique, sur le milieu forestier? On parlait tout à l'heure du centre des Loutres qui est un endroit emblématique par rapport donc à son milieu naturel. Est-ce qu'en Limousin, il y a une attention qui est portée sur quelque chose de très spécifique qu'il faut absolument défendre?
Alors, il faut savoir que le mouvement associatif s'appuie beaucoup sur des bénévoles. Et que les bénévoles, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, on est extrêmement, extrêmement limité. Donc, on a des associations. Donc, nous, on est une fédération. Et souvent, le travail de terrain est fait par nos associations. Le groupe mammalogie qui s'occupe des mammifères, sur ces rivières qui s'occupe de tout ce qui est l'eau, les rivières, les étangs, la LPO. Donc, le travail est fait dans ces associations. Mais même là, il y a des limites. Et on n'a pas de choses vraiment emblématiques. Il faut être sur tous les fronts. Il faut être sur tous les fronts. Sur le domaine de la forêt, par exemple, on a peu. On n'a pas d'association spécifique sur la forêt en Limousin.
Et pourtant, il y aurait beaucoup de choses à dire.
Oui. Alors, voilà. Et donc, on ne peut pas être partout. Hein. C'est vrai que si on a un jour une association qui veut se spécialiser sur la forêt, alors, il en existe un peu sur le plateau de Mille Vaches, des gens qui ont travaillé là-dessus. Hein, mais... On est preneur effectivement, et puis de travailler avec elles, qui rejoignent la fédération. Le travail est important, hein, le travail est important, puisque effectivement, sur l'eau, sur la forêt, sur les systèmes bocagers, sur les différentes espèces, le travail est immense. Hein, donc, on peut appeler effectivement les auditeurs à rejoindre nos associations. Alors, quand un bénévole vient nous voir, on commence par lui dire quel est le sujet qui vous intéresse. Et à ce moment-là, on va le renvoyer vers nos associations. Et puis, si c'est quelqu'un qui est motivé par la protection, éventuellement, on peut l'intégrer à nos équipes pour participer à des commissions qui vont évaluer, par exemple, est-ce que c'est intéressant d'avoir les éoliennes à tel endroit, des méthaniseurs à tel autre endroit, ou bien modifier un plan local d'urbanisme. Tout ça, ce travail-là, effectivement, on a besoin de gens qui sont formés, mais on a besoin de monde, parce que le jour où on n'aura pas suffisant de monde, on est le seul dans ces commissions à porter cette voie-là. Sinon, ce sont toujours des gens qui ont des intérêts particuliers. Ça va être les élus, ça va être les agriculteurs, les chasseurs. À chaque fois, ils ont un intérêt particulier. Nous sommes les seuls qui défendons l'intérêt général, parce que nous, personnellement, on n'a aucun intérêt directement. Donc, voilà.
Alors, tant que tu es là, Michel, et on va terminer avec ça, moi, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi les éoliennes, entre autres, ou les panneaux photovoltaïques, cette forme d'énergie dite verte, pose des problèmes et pourquoi elles rencontrent des opposants, alors qu'au contraire, elles devraient être bien accueillies, puisque j'imagine que si à la place des éoliennes, on leur propose une centrale nucléaire, les gens seront contre. Quelle est la problématique des éoliennes, entre autres? On parle peut-être des oiseaux, de la problématique liée aux oiseaux, mais quels sont réellement les problèmes?
Alors, les énergies renouvelables, éoliennes, méthaniseurs, sont effectivement une solution, une des solutions, une partie de la solution face au réchauffement climatique. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Ce n'est pas une raison pour mettre des éoliennes n'importe où ou des méthaniseurs n'importe où et avec des tailles importantes. Donc, c'est un petit peu la position. On va travailler dossier par dossier. Alors, il y a effectivement des gens qui s'y opposent un petit peu, qui sont de principe. La plupart du temps, c'est parce que c'est à côté de chez moi, je vais le voir de chez moi.
Ou le bruit, ou ça va faire du bruit.
Le bruit. Et donc, c'est plutôt un réflexe de défendre, voilà, j'ai mon petit cocon que je me suis fait, que là, et je ne veux pas que ça change. Ceci dit, les gens réagissent quand il y a des éoliennes, mais quand on va construire une route à côté de chez eux, quand l'agriculteur d'à côté a vendu un terrain et qu'il y a une nouvelle maison qui se met ou un lotissement, on n'a pas les mêmes oppositions. Or, un lotissement va modifier énormément le paysage, l'environnement. Donc, pourquoi ça s'est focalisé sur les éoliennes ? C'est vrai que c'est grand, c'est haut, mais c'est pas moins élégant qu'un pylône électrique, hein. C'est même peut-être plus élégant qu'un pylône électrique. Donc c'est plutôt, j'allais dire, il y a une partie de réaction individualiste des gens.
Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun effet secondaire sur la nature ?
Si, il y a des effets. Mais après, il faut prendre les bons arguments. Dans le cas des oiseaux, par exemple, la LPO, qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'occupe pas des oiseaux, n'est pas contre les éoliennes. Par contre, ils vont dire qu'il y a des couloirs de migration. Il ne faut pas mettre d'éoliennes à cet endroit-là. Par contre, ailleurs, c'est vrai que les éoliennes vont peut-être tuer quelques oiseaux dans l'année. Mais par rapport au nombre d'oiseaux qui sont tués sur nos routes, ou bien qui sont tués par nos chats, c'est quand même pas la même chose. Donc, on peut tout à fait avoir un raisonnement et dire, ben voilà, il y a des secteurs où il ne faut pas mettre d'éoliennes, des secteurs où on peut en mettre. Alors, c'est vrai que pour quelqu'un qui se retrouve avec l'éolienne à côté de chez lui, qui va la voir... Ça peut être un changement de son environnement. Mais de là à faire une violence, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a une certaine violence dans l'opposition avec un argumentaire qui ne tient pas la route. Donc, nous, on va travailler au cas par cas. Quand on demande un avis, on étudie le dossier et puis on dit, effectivement, à tel endroit, c'est bon, à tel endroit, c'est pas bon. Et récemment, par exemple, on a réussi à faire arrêter un projet éolien dans un petit bois de feuillus au nord de la Haute-Vienne. Et puis, par contre, quand on a eu des projets éoliens sur des terres agricoles dans un environnement là, on a dit d'accord, banco. Donc voilà, c'est vraiment au coup par coup, en fonction des conséquences qu'il peut y avoir sur les chauves-souris, sur les oiseaux et puis sur la population. On se bat aussi à chaque fois. On dit essayer de diminuer la pollution lumineuse aussi avec les flashs que ça fait. Donc ça commence à se travailler. Et puis on dit aux porteurs de projets éoliens, d'accord, c'est bien, vous mettez les énergies éoliennes, mais qu'est-ce que vous faites aussi sur le même territoire pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les consommations d'énergie ? Vous êtes un industriel, vous voulez faire de l'argent là-dessus, ben nous, ce qu'on vous demande, c'est investissez sur le territoire pour aider à la transition énergétique du territoire. Pas seulement dire, je mets une éolienne et puis j'en fais de l'argent et je vous donne de l'argent. Donc, c'est aussi cette idée d'avoir un projet de territoire.
Voilà, donc une idée intéressante et donc une conclusion à cette émission aujourd'hui qui vous a parlé donc de la science et de ce rapport donc entre l'homme et la nature. Merci beaucoup Michel.
Merci.
On pourrait continuer encore.
Ah oui, je suis très bavard.
Il y a tellement de choses à dire en tous les cas par rapport à tout ça. Donc Limousin Environnement, si vous souhaitez donc vous engager et les soutenir, n'hésitez pas donc à les contacter. Ils auront donc le plaisir de vous recevoir.